féminines, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenues. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On non la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrions. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence,
en tout cas
pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, c'est les collègues Montpellier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, ce soir, on va vous passer une interview de Pierre Stambul. Pierre Stambul, c'est quelqu'un qui milite depuis très très longtemps pour la solidarité avec le peuple palestinien. Donc, il vient de faire un livre. Il a été interviewé à Toulouse par Radio Canal Sud. Donc, et on reprend donc cette interview qui nous semble très intéressant, même s'il repart de toute l'histoire et en particulier du côté du peuple juif.
Wir arbeitslose Szenen mir nicht gehört hat aus dem Land. In Fabriken Hammerglanz liegen Kehl im Kalt vergessen. Nimm der Schauer sich scheint fressen, gehen wir rum im Gas. Wie die Quir im Pust und Pass, wie die Quir im Pust und Pass. Eins, zwei, drei, vier arbeitslose Szenen mir, ohne Beget, ohne Heim, unser Bett ist Erdenleim, hat noch wer was zu genießen, teilt man sich mit jedem Wiesen, Wasser will ich mir im Wein, gießen mir in Sitter rein, gießen mir in Sitter rein. Wir arbeitslose Szenen mir, jahrelang gearbeitet, schwer und geschafft, als mehr und mehr heißer Schlitter, Städten, Länder, Paare, Heifel, Verschwender, unser Leute, Paar ist was, Hunger neut und arbeitslos, Hunger neut und arbeitslos. Wir rötteln, marschieren wir, arbeitslose Schritt nach Schritt, und wir singen Sicherlied von Land zu Felsen nahe, wo es lebt menschenfreie, arbeitslos, ein Schumann in dem nahen freien Land, in dem nahen freien Land.
Et nous avons donc la joie et l'honneur de recevoir Pierre Stamboul qui sera ce soir à la salle du Sénéchal à 20h30 pour parler de son dernier ouvrage et également du conflit Palestine-Israël, enfin de l'occupation pour tout dire. Ce qu'on vient d'entendre, ça parle d'une marche de chômeurs, je crois bien.
Oui, oui.
Tout à fait, je crois que c'est un morceau qui date des années 20.
C'est l'époque où les Juifs n'étaient pas embringués dans un projet colonial massivement et au contraire pensaient que leur émancipation passait par la révolution mondiale.
L'époque où il y avait le Bund, le Polizeion et voilà. Différents mouvements.
Le Bund qui était farouchement antisioniste et qui considérait que l'émancipation des Juifs se passerait dans le cadre de la révolution mondiale avec autonomie culturelle sur place, sans territoire spécifique. Le Bund qui a animé jusqu'à l'insurrection du ghetto de Varsovie qui fait une manifestation le 1er mai, la veille du grand massacre dans le ghetto occupé.
Et justement, je voulais commencer par là parce que c'est une partie de la culture juive qui a été non seulement bousillée par le nazisme et les divers mouvements fascistes,
par le sionisme,
par les staliniens, mais également qui est
surtout par le sionisme,
voilà, qui est tue maintenant par le sionisme.
Tue et nié, c'est-à-dire que La toute première conférence que j'ai faite sur la question Israël-Palestine, j'avais dit pour construire l'Israélien nouveau, il a fallu tuer le juif. Et je le pense vraiment très profondément, c'est-à-dire que toute cette période où la majorité des juifs du monde entier vivent dans un seul pays qui est l'Empire russe et où ils vont assez largement participer à tous les mouvements insurrectionnels, de résistance et tout, résistance au pogrom, participation, on trouvait des juifs dans tous les mouvements révolutionnaires de l'Europe de l'Est, et cette histoire est complètement niée, le yiddish est en voie de disparition comme langue, Israël a éradiqué absolument tout ce qui pouvait représenter les cultures des juifs, aussi bien d'ailleurs la culture d'Europe centrale, la culture yiddish, que la culture séfarade, et toutes les langues de la diaspora sont des langues en voie de disparition au profit de la langue unique qui est celle des militaires.
Alors à ce stade-là, moi j'ai une question qui est tout à fait primaire, idiote et naïve, et je n'ai jamais compris ce qu'était un juif. Les deux seules idéologies que j'ai vu avoir des réponses satisfaisantes à cette question, c'est les antisémites et les sionistes.
Oui.
Comment définit-on
Bien sûr, les sionistes donnent une définition à la fois religieuse et raciale, ce qui est une horreur. En plus, bon, je l'expliquerai tout à l'heure, dans le sionisme, il y a une gigantesque mythification de l'histoire, de la mémoire et de l'identité, puisque les juifs sont très très majoritairement descendants de convertis à l'époque de l'Empire romain, ou convertis ultérieurs, khazars, c'est-à-dire slaves et turcs pour les juifs européens, berbères pour les juifs du Maghreb et tout, et les descendants des judéens de l'Antiquité sont les palestiniens, une grande majorité. Donc comment on définit un juif dans l'association dont je suis un des coprésidents, l'Union juive française pour la paix? Quand on commence à discuter de ça, on est à peu près assuré que la réunion ne se terminera pas. Mais j'ai quand même essayé dans mon livre de donner une définition. Je dirais, il n'y a pas de peuple juif. Il est clair que les falachas, juifs éthiopiens, les juifs ashkénazes, ou les juifs espagnols, ou les juifs du Maghreb, c'est pas le même peuple. Il y a des peuples ou des communautés différentes ayant une communauté de destin liée à la religion. Mais là encore, quand on parle de religion, la moitié des 6 millions de morts étaient athées. Moi, ma famille, enfin la famille de ma mère a été totalement exterminée, n'était pas croyant. Et même les fondateurs du sionisme, Ben Gurion par exemple, étaient farouchement athées. Même Théodore Herzl n'était pas croyant. Donc, juif, c'est pas une religion. C'est pas un peuple, ce sont des peuples, voilà. Ce sont des cultures et des peuples ayant une communauté de destin qui a été liée à la religion et qui ne l'est plus uniquement.
Il y a un partisan juif connu qui faisait partie du groupe Manoukian qui a découvert qu'il était juif à l'occasion de l'arrivée des nazis en France, par exemple.
Ouais, mon père était dans le groupe Manoukian. Il en est un des très rares survivants.
D'accord.
Il était le groupe Manoukian était organisé en triangle. Et donc il y avait un triangle Boxer, Glass, Stamboul. Boxer et Glass sont sur l'affiche rouge. Ils ont été fusillés au Mont Valérien et mon père était condamné à mort mais pas exécuté. Les nazis ne savaient pas que Stamboul était un non-juif et il est parti à Buchenwald et pas Auschwitz, donc il a survécu.
D'accord.
Donc c'est bien vrai, le peuple juif a bien été inventé, comme dit.
Le Shlomo Sand, bon, alors ça peut se discuter, parce qu'après toute la question est qu'est-ce qu'on appelle un peuple. Bon, le Bund, par exemple, puisqu'on en parlait, s'adressait au peuple yiddish. Il y a incontestablement un peuple yiddish qui avait une unité culturelle, linguistique et territoriale, et qui représentait en gros 10% d'une population qui était la zone de résidence de l'Empire russe entre mer Baltique et mer Noire, donc une minorité importante. Mais bon, voilà, il y a un peuple yiddish, et il a évidemment rien à voir avec les Falachas, avec les Juifs yéménites ou avec les Juifs du Maghreb. Donc il y a un peuple juif. Les sionistes ne se sont pas adressés, comme le Bund l'avait fait, au peuple yiddish, ils se sont adressés à un prétendu peuple juif. Ça, c'est une invention intellectuelle. En plus, surtout, ils ont prétendu, c'est la théorie centrale du sionisme, qu'il y avait eu exil des Juifs en 70 après Jésus-Christ, et que grâce au sionisme, il y avait retour. Et tout ça, c'est la plus grande mystification historique. Il n'y a eu ni exil ni retour.
Non, mais d'ailleurs, le peuple yiddish était même plus étendu que ça, puisqu'on le trouvait dans les ateliers à Londres,
oui,
on le trouvait aux États-Unis, etc.
Au vu de cette lecture en fait historique, le sionisme en fait est antisémite. Du coup, on arrive à retourner.
Alors, c'est une question que j'ai, dans une interview à CQFD, il m'a posé la question, est-ce que le sionisme est antisémite? Antisémite avec ce que c'est, anti-juif, c'est sûr. C'est-à-dire, je reprends la phrase, pour créer l'Israélien nouveau, il a fallu tuer le juif. C'est-à-dire, ce qui faisait un petit peu la situation, comment dire, il y a eu l'anti-judaïsme chrétien qui dure 15 siècles, et puis à partir de 1850, il se transforme en antisémitisme racial, parce qu'il y a la sortie des juifs du ghetto, parce que les juifs deviennent invisibles, parce que les juifs sont une espèce d'obstacle à la folie de vouloir créer des états ethniquement purs et qui sont devenus invisibles. Et donc il y a la figure du juif qui naît à peu près au milieu du 19e siècle, avec une culture assez universaliste, avec une volonté de lier sa propre libération à la libération de l'humanité. Donc oui, le sionisme, ce judaïsme-là, il l'a délibérément assassiné. Je dirais que le sionisme a accompagné une traversée du miroir voulue par les impérialistes. Balfour, par exemple, qui était un antisémite virulent, il est premier ministre d'Angleterre en 1905, il a des propos d'un antisémitisme virulent contre ces juifs polonais pouilleux qui viennent semer la révolution à Londres. Et 12 ans après, il envoie à Lord Rothschild, le plus grand capitaliste juif, la déclaration Balfour disant « on est en train de conquérir la Palestine, on vous la donne, on en fait un foyer national juif ». Et donc quelque part, les Occidentaux ont dit « les juifs, vous étiez des parias asiatiques inassimilables en Europe, si vous allez pour le bien de la gracieuse majesté en Palestine, vous devenez des colons européens ». Et cette traversée du miroir, les sionistes l'ont voulu, donc en ce sens-là, la figure du juif, ils l'ont tué, ça c'est sûr. La figure du juif qui était celle de Einstein, de Hannah Arendt, de Freud, de tout ça, celle-là, ils l'ont tué.
Mais est-ce que c'est un discours, vu le terrorisme intellectuel qu'il y a de nos jours, je dis bien intellectuel, est-ce que c'est un discours qui est audible ou est-ce que tu n'es pas confronté sans arrêt à des accusations, à des procès d'intention?
C'est évident qu'avec, quand on a des organisations d'extrême droite aussi bien rodées que le BNVCA, ces 12 initiales veulent dire Bureau National de Vigilance contre l'Antisémitisme, c'est dirigé par un commissaire d'extrême droite, Samy Gozlan, il est évident que quand on a un terrorisme intellectuel. Je vais sur les sites sionistes et puis chaque fois que j'écris un texte, j'ai un commentaire dessus ou une analyse. Bon, pour eux, par définition, on est antisioniste, donc on est antisémite. Donc, c'est pas grave. Je suis rationaliste, je suis un ancien prof de maths et il faut que la parole soit dite, donc il faut que les mots justes soient dits. Les mots sur la situation en Palestine, ça porte un nom, ça s'appelle occupation, colonisation, apartheid, crime de guerre, crime contre l'humanité, racisme, théorie de la séparation. Et il faut dire aussi les mots pour les juifs qu'ils aient entendu quelque chose sur leur véritable histoire, sur leur identité et tout, parce que d'un point de vue juif, une des raisons de l'adhésion au sionisme, c'est le complexe de Masada, c'est une mystification de leur propre identité, c'est l'idée qu'on leur a inculquée que les victimes ont été, sont et seront toujours les Juifs. C'est l'idée qu'on leur a inculquée que Arafat est un nouvel Hitler, que les Palestiniens veulent recommencer l'œuvre des nazis et tout. Donc, il est important qu'ils entendent autre chose. Par exemple, les deux livres de Shlomo Sand, « Comment le peuple juif fut inventé » ou « Comment la terre d'Israël fut inventée » sont des best-sellers en Israël. Ça ne change pas la mentalité des Israéliens, ça ne change pas l'ordre colonial, mais malgré tout, cette parole, elle existe, et puis dans d'autres circonstances, elle pourra transformer les choses. Donc, c'est important.
Justement, quand tu dis que les livres de Shlomo Sand sont des best-sellers en Israël, ça ouvre le sujet que le terrorisme intellectuel, c'est quand même surtout en France où on n'a pas trop le droit possibilité en Israël, mais quelque part tout fonctionne pour qu'on défende l'Israélien, mais il semblerait que dans d'autres pays, notamment la campagne de boycott, etc., est beaucoup plus active, plus possible. Ici en France, les médias dominants, toute la culture dominante, etc., il est strictement interdit, on n'arrive pas à faire passer cette parole de soutien aux Palestiniens.
On arrive, bon, il faut comprendre que le boycott, on va en parler là, parce que c'est évidemment aujourd'hui l'arme numéro un pour soutenir le peuple palestinien, c'est plus une tradition nordique ou anglo-saxonne qu'une tradition française, donc il y a cette difficulté-là. Il y a le fait en France que les deux partis dominants, UMP ou PS, sont des partis sionistes avec souvent une très grande virulence dans le soutien, mais je considère qu'il commence à y avoir un sacré écart entre les élites politiques en France qui sont pro-sionistes et la majorité de la population qui a basculé, qui pense que les Palestiniens sont les principaux responsables que sont les principales victimes aujourd'hui. Donc, je pense que les choses vont évoluer, que petit à petit, on arrivera quand même à se faire entendre.
Je voudrais quand même revenir sur un point d'histoire. Quand on parle de sionisme, il me semble bien qu'il y avait un sionisme dit révisionniste et un sionisme qui était beaucoup plus à gauche, ce qu'étaient les Poulets de Zion ou quoi. Est-ce que dans le projet sioniste, il n'y a jamais eu, plutôt que de tout mettre dans le même sac, est-ce qu'il n'y a jamais eu d'idée de partage de terre?
Alors, le sionisme, là, ça va, ce soir j'ai assez longuement parlé, il y aurait des dizaines de choses à dire. Bon, au départ, il y a quelque chose d'affreux dans le sionisme, c'est que c'est une réponse dramatique à l'antisémitisme, c'est une réponse disant, c'est une théorie de la séparation, je reprends les mots de Michel Warshavski, c'est-à-dire que le sionisme proclame au départ que juifs et non-juifs ne peuvent pas vivre ensemble, que ce soit dans le pays d'origine ou que ce soit en Israël-Palestine, où l'apartheid va être et la séparation vont être établies. Donc c'est une théorie assez dramatique. Cela dit, il a existé un sionisme à visage humain, entre guillemets, je pense à, plus que le Poel Tzion, je pense à Ahad Raham, ou même plus tard Martin Buber. Même encore, 2 ans avant la guerre de 48, il y a des élections dans le Yishuv, donc dans les établissements juifs de Palestine, où plus de 40% des voix vont aux partisans de l'État binational, donc des gens qui ne voulaient pas le nettoyage ethnique prémédité qui va avoir lieu 2 ans plus tard. Mais dès que les premiers coups de feu éclatent, ce courant est balayé, un peu comme ceux qui auraient, s'il y avait des pieds noirs qui n'étaient pas colonialistes, dès les premiers coups de feu de l'OAS, ils ont été balayés aussi. Donc ce courant qui n'était pas pour le nettoyage ethnique a cessé quasiment d'exister dès 1948. Et donc la véritable nature du sionisme, c'est-à-dire le projet, alors là, tu as parlé des révisionnistes, l'aile dite socialiste du sionisme et l'aile dite révisionniste sont complémentaires. Le sionisme a gommé les différences idéologiques. Entre Vladimir Jabotinsky, qui était le théoricien de l'aile révisionniste, et dont tous les dirigeants actuels en Israël, les morts Begin et Shamir, et les vivants comme Netanyahou, Lieberman, Tzipi Livni ou Olmert, tous sont des disciples de Jabotinsky. Jabotinsky avait inventé le concept de transfert, mais la majorité des sionistes, dès les années 30, sont convertis au transfert. Il ne faut pas oublier que si Jabotinsky est un admirateur de Mussolini, et si l'Irgun et le groupe Stern ont été des groupes terroristes qui non seulement ont massacré des Palestiniens dès les années 30, mais ont tué des soldats britanniques en ce qui concerne le groupe Stern jusqu'en 1943, alors qu'il y a des millions de morts juifs en Europe, l'aile socialiste, entre guillemets, du sionisme, Ben Gurion signe un accord avec les nazis dès 1933. Il rompt le blocus de l'Allemagne nazie décrété par les juifs américains, c'est les accords de Havara. et l'agent juive aura un bureau à Berlin jusqu'à la veille de l'attaque nazie contre l'Union soviétique. Donc, si tu regardes un petit peu tout ce qui se passe depuis que l'État d'Israël existe, la droite et la gauche sionistes sont complémentaires. Par exemple, Der Yassin, le grand crime de guerre commis en 1948, c'est les milices de l'Irgun et du groupe Stern qui massacrent la population palestinienne, et c'est l'armée régulière, la Haganah, qui fait le service après-vente en occupant le village. Quand on regarde un petit peu après, à partir des années 75, il n'y aura plus que des gouvernements de coalition où les crimes de guerre sont alternativement commis par un Sharon ou par un Fouad Ben Eliezer qui construit le mur et qui est travailliste. Donc il y a plus de différence. La différence aujourd'hui en Israël, c'est sioniste, non sioniste, c'est pas gauche et droite. Dire gauche sioniste, c'est un oxymore, quoi. Il n'y a pas de. C'est une contradiction absolue.
Par rapport justement au complexe de Masada, est-ce qu'on peut dire qu'il est applicable aux juifs qui vivent partout sauf sur l'État d'Israël?
Oui, c'est quelque chose qui a. Il y a eu une transformation massive de la mentalité, y compris par exemple des juifs français, c'est extrêmement clair. Alors c'est une transformation profonde, c'est-à-dire qu'alors que la France c'est la troisième communauté juive du monde, hein, faut comprendre que pour les juifs, il y a 40% en Israël, 40% aux États-Unis, 20% dans le reste du monde, et la France c'est la plus grosse communauté. Il y a eu autrefois la figure de l'intellectuel juif qui était progressiste, antiraciste, anticolonialiste et tout. Aujourd'hui l'intellectuel juif c'est Adler, BHL ou Finkielkraut, je préfère ne pas commenter. C'est-à-dire quand même des gens qui sont des racistes, quoi, hein. Faut appeler un chat un chat. Et puis, il y a eu l'époque où moi, quand j'étais au lycée, 1% des enfants juifs n'allaient pas à l'école publique. Enfin, 1%, oui, n'allaient pas à l'école publique, allaient à une école privée confessionnelle. Aujourd'hui, c'est 40% des jeunes juifs qui vont dans des écoles privées confessionnelles. Et comme vous habitez Toulouse, vous avez entendu parler sur un autre sujet d'une certaine école qui a été mitraillée, mais où en tout cas le contenu de ce qui est enseigné est assez inquiétant. Alors, le complexe de Masada, les Israéliens sont élevés dedans. On leur apprend que autour, tout le monde veut les jeter à la mer. Et que s'il y a le moindre compromis qui est fait, ils seront jetés à la mer. En France, il y a une évolution qui est terrible, c'est-à-dire il y a de nombreux juifs qui font même pas un retour identitaire, parce qu'un retour identitaire voudrait dire qu'ils aient eu cette identité. Or, ils ne l'ont pas eu, ils fantasment une identité qui n'est pas la leur, qui n'est pas celle de leur éducation. Je sais que moi, j'ai par exemple un ami d'enfance dont les parents ont été avec les miens dans la résistance anti-nazie, le père a été dans les brigades internationales en Espagne, et qui aujourd'hui non seulement est devenu religieux, mais participe aux campagnes de haine contre Charles Anderlin, accusé d'avoir trafiqué les images de télé.
Mais c'est devenu très courant dans les années 70 que bon nombre de gens qui faisaient partie des mouvements d'extrême gauche, je me souviens d'une blague qu'on disait à l'époque, pourquoi est-ce que la LCR ne
on parle pas ici au comité voilà, central parce que ça ils n'auraient pas compris.
Voilà, parce qu'il y a un séfarade. Oui, ben il y a plein de gens qui ont fait leur retour à la religiosité, au judaïsme.
Mais je dis
et pourquoi.
C'est pas un retour. Bon, moi je
enfin,
suis
leur retour, leur soi-disant retour. Je veux
moi
dire,
je suis né athée, non circoncis. Il y en a plein qui sont nés comme ça et dont beaucoup sont devenus sionistes, sont devenus pro-israéliens avec une espèce de zèle qui ne correspond strictement rien de leur éducation.
Mais ce qui est dramatique, c'est que la situation coloniale de l'État d'Israël, du coup, fait également fantasmer ceux qui s'imaginent d'un côté et ceux qui s'imaginent de l'autre.
Tout à fait.
Bon, tant pis, encore un petit peu d'histoire, parce que quand tu as parlé de cette histoire de gauche, là, je me rappelle, arrivant sur Toulouse, il y avait des gens qui allaient dans les kibbutz et qui, donc, nous montraient cet exemple d'autogestion, d'égalité, etc. Parce que,
alors dans mon livre, j'en parle, parce que j'ai été sioniste quand j'avais 16 ans, donc je connais tous les mensonges fondateurs. Du désert, nous avons fait un jardin, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Les Arabes sont partis d'eux-mêmes. Nous n'avons pas de partenaire pour la paix. Enfin, je connais tout ça. Alors moi, je peux dire, je suis allé travailler 2 fois 3 mois en kibbutz. Et justement, dans mon livre, j'analyse ce que je ressens à l'époque. qui est plutôt positif pour le premier kibboutz, plutôt très négatif pour le deuxième, c'est juste après mai 68. Et puis je raconte ma rupture avec le sionisme, donc les gens qui se posent la question comment on fait pour rompre, bon, dans mon bouquin c'est raconté. Il est certain que mon engagement comme communiste libertaire a beaucoup aidé, le fait qu'Israël soit du mauvais côté dans tous les conflits a beaucoup aidé. Sur les kibboutz, c'est Shlomo Sand qui a les paroles justes et terribles quelque part. Il explique que là où on a voulu voir un semblant de socialisme, d'abord c'était un socialisme pour juifs seulement, dès qu'il y avait un kibboutznik qui était amoureux d'une palestinienne, ils étaient expulsés du kibboutz, ils ne pouvaient pas rester. C'était donc, et puis en plus, les kibboutz ont été installés sur les zones frontières, sur les zones à fort peuplement arabe. Le premier où j'étais, c'était en plein Negev, donc sur des terres piquées aux Bédouins et tout. Et aujourd'hui, par exemple, il n'y a plus de kibboutz, c'est la colonisation en Cisjordanie, c'est les blocs de colonies. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'était pas une expérience socialiste, c'était le seul mode de colonisation qui était possible à l'époque. Et c'est comme ça qu'il faut le resituer.
Juste rappeler à quel livre tu fais allusion, puisqu'il y a un livre qui vient de paraître aux éditions Acrasie et qu'on n'a pas encore cité.
Mais on va en parler, oui.
Ouais.
D'accord.
Pour revenir sur votre livre, en fait, c'est du refus d'être complice.
Alors, voilà.
Aujourd'hui, en fait, on criminalise les personnes juives qui refuseraient justement de reconnaître l'État dans ses principes démocratiques. Et pourtant, la solution d'avenir qui permettrait une paix, ce serait notamment ce moyen-là, en fait. Donc, on est face à une impasse. D'un État qui criminalise, et d'un autre côté, c'est le seul moyen pour...
C'est sûr que dans la propagande actuellement, pour un juif, il a le choix entre être complice ou être un traître. Hein. En gros, bon, moi, je ne suis ni complice ni traître et tout. Y a un truc qui est fou, c'est que quand on réfléchit au niveau de l'histoire, la seule issue qu'il puisse y avoir dans cette guerre-là, c'est l'égalité des droits. Il n'y en a aucune autre. C'est-à-dire, c'est... on n'essentialise pas les gens sur leur identité présumée ou leur origine, et tout le monde a les mêmes droits. Et donc à partir de là, si on part de ce principe-là, on répare le crime fondateur qui était l'expulsion des Palestiniens, on dit l'égalité des droits, on peut négocier. Mais aujourd'hui, on est tout à fait dans autre chose. On est dans une espèce de délire, mais qui remonte à l'origine du sionisme, qui est le délire de la séparation. C'est-à-dire que les Israéliens et les communautés juives organisées dans le monde sont persuadés que sans État juif, c'est les Juifs à la mer. Alors jusqu'à présent, non seulement les Juifs n'ont pas été jetés à la mer, mais ceux qui ont été vraiment jetés à la mer, comme le montrent les images du film d'Eyal Sivan, Jaffa, la mécanique de l'orange, ce sont les Palestiniens.
Mais ceci dit, la société israélienne elle-même, elle est traversée de contradictions. Il y a une lutte des classes en Israël, et il n'y a pas qu'une lutte des classes. Il y a le fait qu'il y a une élite ashkénaze, le fait que les falachas sont des moins que rien, le fait que, enfin, à qui on réserve le sale boulot, le fait que les Arabes israéliens eux-mêmes, ils doivent avoir quelque part le cul entre deux chaises.
Ils sont complètement contre l'État sioniste maintenant.
D'accord.
Ça a été très clair aux dernières élections. J'ai sur le mouvement des tentes ou des indignés en Israël, j'ai dans mon livre un texte qui s'appelle Sionisme ou lutte des classes. Bon. Mais je vais commencer par un petit exemple qui montre bien ce qui se passe avec le sionisme. Quelques mois avant l'opération Plomb Durci à Gaza, il y a des élections municipales à Tel Aviv, et contre le candidat de la nomenclature se présente Dov Reining, qui est un jeune communiste qui a 28 ans, qui fait une liste avec... donc lui, il est communiste, réfusnik, non-sioniste, et il fait une liste avec les quelques Palestiniens de Jaffa, et sa liste obtient 35% des voix. Alors les instituts de sondage vont voir comment c'est possible. Bon, on sonde les jeunes ont très massivement voté pour un réfusnik, qu'on comprend. Ils ne veulent pas aller à l'armée. La population européanisée, qui est très importante à Tel Aviv, a massivement voté pour un candidat qui signifie pas une guerre tous les deux ans, donc quelque part, bon. Et puis, quelques mois après... Il y a Plomb Durci. Quelques mois après, il y a les élections générales où la coalition Netanyahou-Liberman va l'emporter. Le Hadash, le front dans lequel se trouve le Parti communiste, tombe à 2% à Tel Aviv. C'est-à-dire que le sionisme vit, je vais reprendre les mots d'un dirigeant palestinien que j'avais rencontré, les sionistes ont peur de ne plus avoir peur. Quoi. C'est le moteur, c'est celui-là. Donc ils vivent de l'entretien perpétuel d'une peur pour ne pas affronter les contradictions d'une société. Alors, en ce qui concerne le mouvement des indignés, c'était essentiellement un mouvement de révolte de la classe moyenne ashkénaze en Israël, qui a posé toute la question du néolibéralisme. Bon, ils ont eu un moment des avancées, parce qu'ils ont dit tout ce fric qui va à l'armée, s'il allait aux questions sociales et tout, ce serait mieux. Il a manqué quelques mois pour que la jonction avec la question palestinienne se fasse. Il y a eu quelques avancées. Il y a eu une tente de 48 qui s'est installée à Tel Aviv un moment. Il y a eu un mouvement proche du Hadash qui s'appelle Tarabout, qui a pu intervenir dans ce mouvement-là. Mais globalement, par exemple, au niveau électoral, c'est assez dramatique. C'est le parti de Lapid là, qui est arrivé en deuxième position, qui a récupéré ce mouvement d'indignation, et Lapid participe sans aucun problème à un gouvernement d'extrême droite aujourd'hui avec Netanyahou et avec Lieberman. Donc, sur les contradictions de la société israélienne, c'est une société très profondément raciste, où il y a un racisme évidemment absolument ouvert aujourd'hui contre tout ce qui est arabe, que ce soit les religieux, par exemple le grand rabbin Rosen qui disait que la Torah autorisait qu'on tue les Arabes, leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux. Bon, il y a des déclarations tout aussi décomplexées de l'extrême droite laïque en Israël, il y a des déclarations d'un racisme absolument ouvert sur les sans-papiers qui arrivent par milliers d'Afrique de l'Est et tout, mais il y a un racisme très virulent à l'intérieur de la société juive israélienne. Même dans ma famille, il y a un cousin de mon père qui avait épousé dans les années 30 une juive marocaine, c'était considéré comme une mésalliance. En yiddish, on les appelait les schwarz, les noirs, pour désigner les juifs marocains et tout. Il y a eu, dans les années 50, les Marocains qui émigraient en Israël, on avait décrété que leurs enfants avaient la gale ou la teigne. Il y a eu des irradiations massives, des expériences qui ont été menées sur ces enfants. Il y a eu des centaines de morts. Le scandale est sorti beaucoup plus tard. Il y a eu des enfants de juifs yéménites. On disait aux mères que leur bébé était mort. Et en fait, les bébés étaient adoptés par des familles ashkénazes. Là, tout récemment, il y a un autre scandale qui vient de sortir, que des femmes falacha ont été stérilisées en masse. Donc, le racisme intérieur à la société juive israélienne, il existe, mais c'est quelque part assez logique. C'est un pays dont la seule unité, c'est la peur, et c'est une identité falsifiée. Donc, c'est logique que ça pète, quoi.
Ce que vous pouvez dire là-dessus quand même, c'est quand même le racisme, hélas, c'est la chose la plus partagée au monde, hein, et qu'on ne peut pas dire partout on le trouve. Et
c'est... Mais chez les juifs, c'est un côté obscène, parce que dans mon éducation juive, le racisme, c'était le mal absolu, on avait quand même donné, quoi. Hein,
Je pense que l'obscénité peut être très partagée.
Et donc aussi, ce qui moi m'interroge, c'est ce soutien indéflectible qu'apporte l'Occident à l'État d'Israël. Donc là, on arrive à la question un peu comment résister, alors là-bas et ici, quoi. Enfin.
Alors d'abord, je voudrais un petit peu analyser ce soutien. Là, je reprends les paroles d'Eyal Sivan. Il disait, ce n'est pas parce qu'ils sont malins, Eyal Sivan, donc cinéaste anticolonialiste israélien, il disait, ce n'est pas parce que l'Occident est mal informé qu'il soutient inconditionnellement Israël, c'est parce que cet État surarmé dépense 60% de son budget dans l'armement et les technologies de pointe, c'est l'État rêvé des dirigeants occidentaux. Un Israël qui vivrait sur un pied d'égalité en paix avec ses voisins, ça ne les intéresse pas. Il y a autre chose aussi que je veux dire sur ce soutien. Beaucoup de gens s'imaginent qu'il y a une culpabilité des dirigeants occidentaux vis-à-vis des juifs et que ça expliquerait cette complicité. Je m'inscris en faux contre ce truc. Si l'Occident s'était senti coupable, il aurait dit après le génocide nazi, « Bon, les juifs, on a déconné avec vous, là maintenant on vous donne l'égalité des droits et vous ne serez plus persécutés ». En 1945, c'est pas ça qu'on leur a dit aux survivants, parce qu'ils demandaient massivement les rescapés des camps qui vivaient dans des camps en Allemagne ou en Autriche. Ils demandaient massivement des visas pour l'Angleterre, pour la France, pour les États-Unis. On leur a pas donné. On leur a dit les Juifs, maintenant vous avez un pays, vous dégagez quand vous voulez. C'est-à-dire que l'Occident s'est débarrassé du crime antisémite et du crime de génocide sur le dos du peuple palestinien qui avait rien à voir. Donc la complicité aujourd'hui occidentale, elle est claire, c'est-à-dire que pour tenir le Proche-Orient, il faut tenir debout, il faut tenir Israël d'un côté, les monarchies du Golfe de l'autre côté, et on tient le Proche-Orient et on arrive à contenir les révolutions du monde arabe, comme c'est en train de se passer. J'espère que ces révolutions inachevées rebondiront et iront plus loin. Donc c'est Israël est devenu véritablement, je dis, les Juifs sont passés de l'autre côté du miroir pour servir de force d'appoint à ça. Donc rompre l'impunité, c'est en tout cas dire qu'il y a un terrible hiatus dans les pays européens entre ce que ressentent de plus en plus les gens. Les victimes sont les Palestiniens ont droit à l'égalité et tout, et ce que disent les dirigeants qui sont complices de crimes de guerre, qui vont jusqu'à rehausser les relations économiques entre Israël et l'Union européenne pour que, y compris les produits des colonies, arrivent détaxés sur nos marchés. Donc, il y a un travail véritablement à faire, et il y a quand même une fenêtre. Il y a la fenêtre, c'est l'énorme décalage qu'il y a entre la population qui, dès qu'elle voit un film ou un documentaire sur la situation des Palestiniennes, réagit, et les dirigeants qui sont très clairement engagés aux côtés des assassins, quoi.
Que pensez-vous, en fait, de la récupération du thème Israël-Palestine par l'extrême droite, notamment française, en fait, qui sait manier, elle aussi, le propos?
Alors, il y a un truc qui est terrible, c'est que l'antisémitisme a été, pendant plus d'un siècle, le dénominateur commun de toutes les formes de fascisme et d'extrême droite en Europe. Aujourd'hui, c'est assez clair que c'est l'islamophobie qui est en train de prendre ce créneau-là. Et on a eu cette visite conjointe de tous les dirigeants de l'extrême droite européenne. Strache, le dirigeant du parti néo-nazi autrichien, Wilders, le hollandais, De Winter, le flamand. Marine Le Pen rêvait d'y aller, elle ira la prochaine fois, mais son compagnon à Lyon y est allé. Ils sont tous allés en Israël à l'invitation d'Avigdor Lieberman. Ils ont visité la Knesset, ils ont visité Yad Vashem, le mémorial de la Shoah. Et alors, ça va plus loin, c'est-à-dire que les descendants des partis antisémites ou des partis qui ont soutenu les Einsatzgruppen en Europe de l'Est sont tous pro-israéliens. On voit ça, par exemple, les frères Kaczynski ont été sans arrêt, quand ils étaient au pouvoir pro-israélien, ont été soutenus à bout de bras par Radio Maria, qui est une radio antisémite au premier degré. Les partis en Lituanie ou en Lettonie dont les ancêtres ont accompagné les Einsatzgruppen pour liquider 95% des Juifs baltes, ils sont aujourd'hui pro-israéliens. On voit même la colonisation a massivement été financée, la colonisation de la Cisjordanie, par des antisémites américains qui sont les chrétiens sionistes. Il y a aux États-Unis des millions de chrétiens sionistes qui font une lecture littérale de la Bible, pour lesquels le livre de Josué sur la conquête sanglante de Canaan est un livre de chevet, qui estime que les juifs, mais dans leur tête c'est un juif imaginaire, doivent aller en Terre Sainte, expulser le mal, Armageddon, les Arabes, les bronzés, les Palestiniens, et évidemment après il faut qu'ils se convertissent à la vraie foi, sinon ils disparaîtront. Donc bon, retrouver aujourd'hui l'extrême droite et les antisémites au service de la colonisation et du grand Israël, c'est pas un hasard, quoi. Ça ne m'étonne qu'à moitié.
Mais du coup ça donne une situation complètement désespérée, parce qu'un miroir de la colonisation, si je prends le côté décolonisé, il y a en gros deux partis, un parti au pouvoir et un parti religieux, et en face, à côté, tout ce qui était FPLP ou tout ça était plus ou moins balayé, ou alors je me laisse avoir par la propagande.
Oui. Je me souviens que je suis reçu, ça fait un paquet d'années, ça fait 5 ans, par le maire FPLP de Bethléem. Bon, conversation très très intéressante, mais c'était au moment où il y avait une espèce de pseudo-accord qui n'a jamais été respecté sur un gouvernement d'union nationale Fatah-Hamas, et il disait « moi mon parti est contre », et ces deux partis à eux deux représentent tout au plus 30% des Palestiniens. Il est certain par exemple qu'aujourd'hui le phénomène essentiel en Palestine, c'est l'appel de 2005 de 172 associations de la société civile pour le boycott des investissements sanctions, et il n'y a ni le Fatah ni le Hamas là-dedans. Les comités populaires qui animent aujourd'hui la résistance sur le front, que représente tout le tracé du mur, tous les endroits où on arrache les oliviers, on détruit les maisons et tout, et tous ceux qui viennent assez régulièrement en Europe ou qu'on va voir quand on fait des missions en Palestine, ce n'est ni le Fatah ni le Hamas. Donc bien comprendre que si la société palestinienne a survécu à une répression et à ce que le tribunal Russell appelle un sociocide, c'est bien parce qu'il y a une société civile extrêmement vivace, que c'est un monde où il y a énormément d'associations. Donc bon, ce qui se passe avec les partis dominants n'est qu'une superstructure. Bon, la Palestine n'a pas d'État, mais a deux gouvernements rivaux, et fort heureusement, elle a une société civile qui est autre. Et c'est celle-là qui est la plus intéressante.
Ils se sont fourvoyés, ils ont pensé pouvoir composer avec l'État sioniste. Les 22%, les fameux 22%,
bah, disons
ils
que...
y ont cru ou...
Alors, je jette pas complètement la pierre à Arafat quand il se lance, parce que c'est lui qui emporte le morceau. En, dès 1988, à la conférence d'Alger, pour une reconnaissance de l'État d'Israël dans ses frontières de 48, bon, et puis dans tout le processus qui va mener à Oslo. Arafat, en gros, dit, voilà, ça fait trois générations que les Palestiniens sont des réfugiés, on est en train, il y a une tentative qui risque de réussir, de rayer le peuple palestinien de l'histoire. Bon, il faut, puisque l'ONU a reconnu, hélas, le nettoyage ethnique de 48, mais n'a pas reconnu celui de 67 et la conquête, on s'engouffre là-dedans et on essaie de faire un État palestinien sur 22% de la Palestine historique. Tout ça, je comprends. Et d'ailleurs, à l'époque, j'ai des textes qui sont assez favorables à la stratégie d'Arafat. Là où il s'est fourvoyé, c'est qu'il a pensé qu'il y avait des sionistes à visage humain, et c'est qu'il a pensé qu'on pouvait signer la paix des braves, c'est une expression qu'il a souvent reprise. Et je le montre dans mon livre, quoi. Même un type comme Yitzhak Rabin, qui a été d'une brutalité totale dans la répression de la première intifada, Yitzhak Rabin, entre la signature des accords d'Oslo et son assassinat 20 mois après, installe 60 000 nouveaux colons. C'est-à-dire qu'à Oslo, ils ont signé la sécurité de l'occupant, la création d'une autorité palestinienne qui servait essentiellement de police. Mais jamais à Oslo n'a été signé ni le retrait des colonies, ni la création d'un État palestinien. Mais j'ai discuté avec des négociateurs palestiniens. Ils me disaient, nous on est des orientaux, donc on établit un climat de confiance, et puis après, bon, on pense que les choses vont avancer. Et donc on pensait effectivement que dans une seconde étape, l'État, le retrait des colonies allait venir. Les Israéliens, ils négocient. Et puis ils disent, ben, on est en désaccord sur l'essentiel, mais on va signer quand même quelque chose, et on va signer l'ouverture du checkpoint, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé d'un bout à l'autre.
Relâcher la pression petit à petit, quoi.
Oui, voilà.
On peut revenir aussi sur le procès, d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud, Russell, sur justement l'état d'apartheid.
Alors, le tribunal Russell, qui est un tribunal symbolique, voilà, qui prolonge le grand tribunal Russell de l'époque de Bertrand Russell avec Sartre et tout, c'est Laurent Schwartz et tout, sur la guerre du Vietnam, a tenu cinq sessions. Et la session la plus importante a été en novembre 2011, la session qui s'est tenue en Afrique du Sud. Donc dans ses conclusions, le tribunal Russell dit que selon la définition internationale qui est donnée de l'apartheid, Israël pratique une politique d'apartheid. Les Sud-Africains, les témoins sud-africains à ce jugement, et notamment à la COSATU, le principal syndicat sud-africain, ont dit que sur bien des aspects, ce qui était infligé aux Palestiniens était pire que ce qu'eux ont subi pendant toutes les années de l'apartheid sud-africain. Dans sa session New York, le tribunal Russell a ajouté à l'apartheid le sociocide, et il est certain que c'est très argumenté, il y a des pages et des pages d'analyse de ça. Ce soir, dans ma conférence, je décrirai ce qu'est l'apartheid israélien, dont le vecteur numéro un, c'est la fragmentation de la société palestinienne. C'est-à-dire du fait qu'il y a aujourd'hui quasiment autant de Palestiniens que d'Israéliens et Juifs entre Méditerranée et Jourdain, c'est en fragmentant la Palestine en autant d'entités qui ont des statuts et des formes de discrimination différentes que le sionisme se survit. Et on voit bien la fragmentation, la Cisjordanie elle-même divisée en trois zones, Jérusalem-Est, Gaza, les Palestiniens d'Israël, les réfugiés et tout. Et donc, il y a fragmentation, il y a apartheid, et le jugement du tribunal Russell a donné une base juridique extrêmement importante à l'appel international au boycott des investissements sanctions.
Et pour revenir, c'était dans le titre de ton livre, il y a du refus d'être complice à l'engagement. Et l'engagement, c'est pour revenir à la résistance, où tu n'as pas, tout à l'heure on a parlé d'autre chose, donc la résistance des Palestiniens, ou des Israéliens aussi, et la résistance ici en France. Quoi.
Alors la résistance des Palestiniens, elle n'a jamais cessé, et j'ai envie de dire que les Palestiniens auront tout essayé, Ils ont essayé la lutte armée, ils ont essayé le terrorisme, ils ont essayé
l'insurrection,
ils ont essayé l'intifada, ils essaient aujourd'hui, je dirais pas la résistance non violente, la résistance non armée, ils ont essayé la diplomatie, ils ont essayé l'ONU. Ils ont en face un sionisme qui n'en veut pas, c'est-à-dire que comme les dirigeants sionistes ne veulent pas de partenaire pour la paix, s'ils en ont un, ils l'emprisonnent ou ils le liquident, et s'ils ont une forme de lutte, ils s'en prennent délibérément à elle. Dans mon livre, je montre bien comment, dans les périodes de trêve, délibérément, les dirigeants sionistes ont commis des assassinats ciblés pour relancer des attentats, pour relancer la guerre, pour relancer la tension, parce que surtout, ils ne veulent pas... Par exemple, si les dirigeants israéliens voulaient une négociation... Il libérerait Marwan Barghouti, bon, parce que là on était certain qu'il y avait une phase de négociation qui arrivait. Bon, bien évidemment, s'il ne le libère pas, c'est pour ces raisons-là. Dans le titre l'engagement, il y a aussi mon engagement personnel en tant que juif, ou l'engagement de l'UJFP, ou celui des anticolonialistes israéliens. Moi, étant juif athée, ça a été très douloureux pour moi d'aller dans une association où il y avait le J. Et au tout début, dans l'UJFP...
Le J, tu veux dire J, le J de juif
de UJFP. Mm-hmm. Au tout début, on y va sur des motifs assez égoïstes, qui sont pas en notre nom. Sur le mode, les crimes qui sont commis là-bas, c'est pas nous. Nous, on est propres sur nous, tout. C'est aussi sur un truc, mais ils vont quand même pas nous voler le judaïsme. Pour nous, le judaïsme, c'est Einstein, c'est Hannah Arendt, c'est Rosa Luxembourg, mais c'est pas eux, quoi. Hein. Donc, au début... les premières réunions de l'UJFP étaient des espèces de psychothérapie collective. Et toi, pourquoi t'es là? Et c'est quoi ton J? Et bon. Et puis, fort heureusement, on est quand même passé à l'étape suivante. Et l'étape suivante, c'est la lutte anticoloniale. Et c'est surtout, moi, quelque chose qui aujourd'hui me fait un immense plaisir. C'est que ce soit nous, à l'UJFP, ou les anticolonialistes israéliens, la jonction s'est faite avec les Palestiniens. J'ai eu, moi, la joie à plusieurs reprises d'animer des débats avec des Palestiniens de toute obédience. J'en ai fait avec Ine Khoury, la représentante de l'autorité palestinienne en France, à trois reprises. J'en ai fait avec des représentants des comités populaires, Moussa Abou Maria ou Fayez, qui est en tournée en France en ce moment. Il sera à Notre-Dame-des-Landes dans quelques jours. J'en ai fait avec Maryse Gargour, qui est une cinéaste franco-palestinienne et tout. Les anticolonialistes israéliens ont carrément créé des associations qui sont à la fois israéliennes et palestiniennes, parce que il faut bien comprendre, cette guerre n'est pas une guerre ni raciale, ni religieuse, ni communautaire. C'est une guerre coloniale, c'est une guerre qui porte sur la question essentielle qui est l'égalité des droits. Et ce qui m'a convaincu d'aller dans l'UJFP, c'est que il était fondamental qu'il y ait une composante juive dans le mouvement de soutien à la Palestine, justement parce que cette guerre n'est pas communautaire, et puis surtout pour ne surtout pas laisser à des fascistes le monopole du judaïsme.
Et alors là, parce que leur tourne, c'est une question très compliquée. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas rater une décolonisation dans ce cas-là? Parce qu'on parle d'état binational, on parle de deux états, enfin, l'état n'a jamais été forcément une solution en soi.
C'est Nourit Pellet, qui est une anticolonialiste israélienne, dont la fille était morte dans un attentat du Hamas, mais qui est vraiment quelqu'un de très engagé, qui dirige qui s'occupe en Israël de la lutte contre l'enseignement raciste et colonialiste à l'école, qui anime un comité des familles endeuillées avec des familles palestiniennes. Comme ses enfants sont anarchistes contre le mur, elle dit un état, deux états, et pourquoi pas d'état du tout. Bon, c'est un clin d'œil. Ce que je peux dire, c'est que le fond de la question, bon, moi je serais plutôt partisan évidemment d'un seul état que de deux, mais le fond de la question, c'est la fin de l'état juif. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir de paix avec le sionisme. Donc il faudra passer à un post-sionisme, à une rupture du sionisme, avec le sionisme, à un dépassement du sionisme, de même qu'il ne pouvait pas y avoir une issue en Afrique du Sud avec le maintien de l'apartheid. De même que le premier acte en Afrique du Sud, ça a été de dire l'apartheid est un crime, le premier acte d'une paix là-bas, ce sera de dire le but c'est l'égalité des droits, le crime fondateur c'est l'expulsion de 80% des Palestiniens de leur propre pays en 1948, et la paix ça va être on essaie de réparer aujourd'hui. Alors on essaiera de réparer comment? La revendication de l'appel BDS elle porte sur trois points qui sont
vraiment boycott
des investissements, sanctions, l'appel palestinien, donc des 172 associations. Elle porte sur trois points fondamentaux: l'égalité des droits, la fin de l'occupation et de la colonisation, le droit au retour des réfugiés. Donc très justement, quand on regarde ces trois points, ils ne posent pas la question d'un État, deux États, même si on entrevoit mal le droit au retour des réfugiés dans 22% de la Palestine historique. Et en même temps, les trois revendications réunifient les Palestiniens dans cette Palestine bantoustanisée et fragmentée. C'est-à-dire que ces trois revendications, elles parlent aussi bien aux gens de Cisjordanie, de Jérusalem, de Gaza, les Palestiniens d'Israël ou les réfugiés. Et je crois que avoir comme but réparer la fragmentation de la Palestine et le but, c'est l'égalité des droits, ça me paraît beaucoup plus important que poser la question autorité palestinienne, etc., ou ONU.
J'ai un souvenir, moi, en fait, d'une association qui s'appelle Europa Palestine, qui a tenté, en fait, de casser une fois de plus le blocus en prenant des avions à travers le monde et en tentant d'aller à Bethléem. Ça avait foiré, ça n'avait pas marché. Et une question s'était posée, en fait, c'était par rapport au blocage des participants.
Qui avait lieu en France avec Air France,
Lufthansa, etc. Et en fait, du coup, après coup, on s'est rendu compte que l'État d'Israël a tout simplement demandé d'annuler tel participant. Et du coup, on s'est demandé comment, en fait, ces noms avaient pu être dévoilés. Et on a supposé un lien entre le Mossad et l'État français.
C'est directement l'État d'Israël qui a donné à toutes les compagnies, un tel ne pourront pas débarquer à l'aéroport Ben Gurion. Les lois du trafic international font que quand quelqu'un est indésirable qu'il débarque, les frais sont en entier dus à la compagnie. Donc ils ont fait pression comme ça. Mais cela dit, quand on voit qu'Air France a demandé à Nice à quelqu'un « Est-ce que vous êtes juive ?» Elle a dit non et qu'elle n'a pas été embarquée. Il ne fait pas doute qu'il y a une complicité absolument éhontée des compagnies internationales. Après, je comprends l'opération Bienvenue en Palestine qui était pour dire « C'est scandaleux, on ne peut pas dire qu'on va en Palestine, le pays est sous blocus. » En même temps, c'est vrai que nous, quand on y va, on préfère se planquer parce que l'essentiel pour nous est d'y rentrer. Donc, je crois qu'il ne faut surtout pas opposer, par exemple, les missions civiles ou Génération Palestine, qui envoient chaque année des dizaines de personnes là-bas. Bon, on fait semblant d'être des touristes en rentrant. Chaque fois, j'ai pu rentrer sans problème. Une fois, j'ai eu beaucoup plus de mal à sortir.
Dernière question.
Oui, c'était en écho à tout à l'heure, tu disais qu'ils pourraient libérer Marwan Barghouti.
Non, ils ne libéreront pas, justement. Ils ne veulent pas libérer pour ça.
Voilà. Et bien, nous, en France, il y a Georges Ibrahim Abdallah aussi. Et là, on voit encore la connivence des Occidentaux, des Américains, etc.
Surtout que c'est clairement les États-Unis et Israël qui ont demandé à Valls, qui est leur complice. Valls, le lendemain de sa nomination au ministère de la chasse aux Roms, a été invité par le CRIF de Marseille, est allé manger là-bas le lendemain de sa nomination, et donc assez logiquement, il s'oppose à la libération de Georges Ibrahim Abdallah.
C'est fou comme tout ressemble à sa caricature, parce que je parlais tout à l'heure de Yon Parot, qui est un basque, et qui demande sa quatrième mise en libération. Quoi qu'ait fait Yon Parot, je veux dire, s'il y a une solution qui doit être faite entre l'État espagnol et les Basques, ça passera aussi par une libération des prisonniers, on l'a vu en Irlande, on l'a vu sur l'Européen même, et là ça bloque parce que ils ont besoin d'un ennemi, ils ont besoin d'un conflit, ils ont besoin de l'attention. On va peut-être rappeler donc ton livre.
C'est Israël-Palestine, du refus d'être complice à l'engagement. C'est sorti aux éditions Acrassi. C'est un gros bouquin parce que comme tu l'as dit,
600 pages, un kilo.
Voilà. Parce qu'en effet, tu traites tous les sujets et
vous trouverez, tout là-dedans. Ma trajectoire, les analyses sur le sionisme, l'histoire mois par mois du conflit depuis 25 ans.
عشق اليوم يا اهل يا مفتوح وواحد يمسك سلاح وصرف خيولهم على طول ما في حل هيك حط الشغله بايديك واقف على رجليك وانتم على العدو قبل ما يهجم عليك هيك علمنا واحنا صار هلا صرنا كبار راح يصير دمار يعني راح يصير دمار عشان الضحك الستايل باللي صار حاولنا ضرب حصار بس كان قرار لالي وقت اطلاق النار صرنا حصار كل يوم قاعدين نقرا كم نقار افكار كيف نخلي اسرائيل تنهار اصوات من برا ضخ وخط وحجر
Donc c'était une interview de Pierre Stambul réalisée par Radio Canal Sud à Toulouse. Pierre Stambul d'ailleurs sera aux Rencontres Libertaires dans l'Ariège organisée par l'OCL. Ça sera le 31 juillet. donc dans l'Ariège. Ces rencontres ont lieu du 22 juillet au 2 août. Maintenant, il ne reste plus grand-chose, mais je voudrais quand même avoir un petit clin d'œil à Bure, puisque il y a eu la résistance de Bure qui s'est fait parler d'elle, puisqu'ils ont refusé, et ils refusent, le fameux débat public, etc., qui est une foutaise pas possible, puisque de toute façon, la décision est prise d'enfouir les déchets. Si ces déchets ne sont pas enfouis demain, c'est bien parce que il y aura une résistance importante, et si cette résistance n'est pas importante, eh bien il y aura enfouissement des déchets. Donc ils ont tout à fait raison de refuser ces faux débats publics. Là, il y a eu déjà une victoire à Bure même, puisque le truc n'a pas pu avoir lieu. Par contre, aujourd'hui, c'est à Bar-le-Duc, le 17 juin, donc, à Bar-le-Duc, le jeudi 20, c'est à Nancy, donc on aura l'occasion d'en reparler, parce qu'il semble bien que, au niveau de la répression, eh bien, ça va se faire, puisqu'il semble bien que ces débats auront lieu à coups de matraque, si l'on en croit le journal Le Républicain Lorrain, en date du 7 juin 2013. D'ailleurs, dans cet article, j'ai noté un truc très très important, qu'il me semble, hein, pourquoi ils veulent absolument qu'il y ait ces débats publics, parce que tout simplement, s'ils ne sont pas faits, il y aura des blocages institutionnels, il y aura des blocages dans les tribunaux administratifs possibles, donc ça retarderait bien évidemment ce laboratoire, ce qu'ils ne veulent évidemment pas. Et en plus, il t'annonce carrément qu'il y a d'autres débats qui vont être prévus en France, qui porteront sur les OGM et sur le gaz de schiste. Donc, effectivement, on peut pas. C'est sûr que c'est important, super important, de refuser ces réunions publiques. Voilà. Alors, je crois qu'on aura peut-être l'occasion d'y revenir, puisque, comme je vous l'ai dit, ce soir, c'est à Bar-le-Duc que normalement les opposants vont tout faire pour que le débat n'ait pas lieu.
Ouais, donc suite au débat raté de Bure, ils avaient annulé deux débats, Saint-Dizier et
Joinville.
Oui. Voilà. Alors il y a une partie des débats du débat public qui se passe dans la région et une autre partie qui se passe un peu dans toute la France, puisqu'il y a un débat prévu à Cherbourg, il y en a à Marseille, on a à Lyon, il me semble, je ne sais plus, la grande majorité. Et puis, ils ont ouvert un site internet pour participer au débat.
C'est voilà. Ça. Alors d'ailleurs, il te parle, au total, il y a 12 débats qui étaient prévus au départ, donc 2 ont été annulés, il en reste 10, et ça couvre effectivement toute la France. Et puis ensuite, il parle même de faire des mini-débats un peu partout, paraît-il, hein. Paraît-il, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est des débats pour rien, puisque de toute façon, les gens qui s'exprimeront n'auront pas, c'est pas eux qui décideront, puisque ça sera le Parlement qui décidera s'il faut enfiler des essais ou pas. Ça nous rappelle l'histoire des centrales nucléaires dans les années 80, où effectivement il y avait eu soi-disant un débat public après l'élection de Mitterrand, et finalement c'était le Parlement qui avait tranché. Et quand on sait le pouvoir qu'ont les nucléocrates au niveau des politiciens, c'est évident que les dés sont pipés, c'est moins qu'on puisse dire.
Nous unissons les exploités, les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maintenues. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce, d'une logique de la rationalité du capital. La globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on la considère ni fatale, pas du tout. On ne la considère pas fatale. la petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants. Le vampire, il semble très fort, mais il ne peut pas se passer des gens qu'il vampirise. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampires.
Moi, je vous propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que paisiblement nous entrons. Et vous retirez sur le côté, gentiment. Monsieur, comme ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas de
inconvénient. J'attends les ordres.
Allez, c'était Ali Régor, une parole anarchiste communiste, chaque semaine chez les collègues Gary Grompelier, Canal Sud à Toulouse et Radio Primitive sur Reims. Si vous voulez retrouver nos émissions, eh bien, pas de problème, c'est sur le site OC Libertaire et c'est aussi sur le blog Le Chat Noir 51.